Je cède la parole à Olivier Gotchaud, sociologue, chercheur au CNRS, qui connaît bien donc ce milieu des traders.
Donc François Meunier a un petit peu dévoilé ce que je vais dire, d'une part parce que il a effleuré un petit peu mes travaux, mais aussi parce qu'on s'est alimenté aux mêmes sources, qui ne sont pas très nombreuses. Donc je vais commencer par quelques constats un peu chiffrés. L'évolution des rémunérations a été très forte dans l'ensemble des places financières depuis une trentaine d'années. Là, j'ai mis le salaire moyen à New York depuis les années 80, qui passe de 25 000 dollars pour les salariés de la finance à près de 200 000 dollars en 2006. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est assez heurté, qu'il y a des crises récurrentes, mais qu'après chaque crise, on remonte à un niveau supérieur au boom qui précédait la crise. En France, je me suis servi d'une série qui porte sur un tout petit nombre de personnes, mais qui est assez impressionnante. C'est les 10 salariés les mieux payés de la Société Générale. On peut en avoir des traces dans le bilan social, donc, au niveau de l'entreprise, pas au niveau du groupe. Et cette courbe a une forme exponentielle sur un graphique logarithmique, ce qui n'est pas banal. Et on passe de 200 000 euros en moyenne pour les 10 à près de 6 millions d'euros en 2001 au titre de l'année 2000 pour les 10, qui ne sont plus les mêmes d'ailleurs. On remonte à un niveau de 7 millions d'euros par personne en 2006. L'affaire Kerviel remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais on peut imaginer que dans les années à venir, ça va remonter un petit peu. Ces 10-là sont mieux payés que les PDG du CAC 40. Ils sont aussi bien payés que les PDG du top 100 américain en niveau cash. Et d'ailleurs, ils sont payés en cash. Qui sont-ils ? Alors, ce n'est pas des traders. Hein. Ce sont des chefs de salle et des chefs de desk. Le trader est un terme générique qui est utilisé un peu de manière grossière. En fait, il y a plein de métiers. Il n'y a pas que les traders qui sont bien payés. Il y a aussi les vendeurs. Et en général, ceux qui sont les mieux payés, ce sont les supérieurs des équipes de trading et des équipes de vente, donc des chefs de desk et des chefs de salle. Philippon et Rechef ont montré que les salaires dans la finance étaient bien supérieurs aux salaires dans les autres secteurs. Donc, par rapport à, ils ont fait un benchmark à niveau de diplôme et de complexité, en particulier dans les périodes de dérégulation financière des années 20 et 30 et récemment. Alors, ce que je veux montrer aussi, c'est que ces rémunérations élevées qui concernent un petit nombre de personnes, ça a des effets macro-sociaux aussi qu'on constate de plus en plus, et le réveil des inégalités est en partie dû alors aux États-Unis et aussi en France à l'augmentation des salaires dans la finance. Là, j'ai fait à partir des DADS l'augmentation du millim qui a pris 60% en part de marché depuis 1996, et dans cette augmentation du millim, en fait, il y a quasiment 60% qui est lié à l'augmentation des salaires dans la finance. Donc à l'échelle de la société française, même si ça reste un petit effectif, il y a une distorsion des inégalités qui est en partie due à l'accroissement de la place de la finance. Alors, comment interpréter ça ? Les opérateurs de marché mettent en avant, d'une part, que ce sont des gens très intelligents, très diplômés, et c'est vrai, on recrute à très très haut niveau de compétences. Cela dit, à partir des données d'une banque, quand on contrôle les niveaux de salaire avec une grille de diplôme extrêmement détaillée, c'est pas juste bac plus 5, etc., c'est avec tel niveau de grande école, polytechnique centrale, on constate que au sein d'une banque même, les salariés qui sont au front, traders, vendeurs, sont trois fois mieux payés que les salariés qui sont dans les supports, alors même que ce sont des gens qui peuvent être ingénieurs de grande école, même s'il y en a un petit peu moins. L'explication par le capital humain, même quand on se donne une grille extrêmement fine de compétences, elle a du mal à rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Et c'est en particulier vrai quand c'est toute la hiérarchie qui est décalée du front de marché, et c'est particulièrement vrai en haut de la hiérarchie. Alors, il y a l'explication par les superstars qui a été évoquée par François Meunier, qui je pense, a peut-être une validité locale. c'est-à-dire entre 5 ou 6 traders, le trader qui est un peu plus performant que les autres, même s'il il a un retour sur fonds propres de 21% plutôt que 20%, eh bien, il vaut mieux lui donner un portefeuille qui est plus important que le second. Donc ça, c'est vrai, mais je pense à des niveaux très locaux dans la salle de marché. Par contre, j'ai du mal à croire qu'à l'intérieur d'une banque, ils aient ordonné tous les salariés en fonction de leur niveau de compétence, en mettant systématiquement les meilleurs qui ont un tout petit ROE, un tout petit peu supérieur, au front office, et ceux qui sont un tout peu moins bons, systématiquement au back office. Donc il y a une part de chance, d'hystérésis liée à la position occupée et au mode d'insertion dans la finance qui est, je pense, très important. Troisième explication assez fréquente, ces explications en matière d'incitation, avec cette idée assez logique que dans les métiers où l'impact sur les résultats est fort et mesurable, eh bien, il vaut mieux inciter fortement et inciter plus fortement que dans les métiers où l'impact sur le résultat est plus faible et non mesurable. Mais par contre, la conséquence de ça, c'est que si on veut avoir des gens également compétents dans les deux métiers, il faut proposer des solutions salariales qui soient également attractives. Et la conséquence de ce type de raisonnement, ça veut dire que quoi ? C'est que dans les métiers où l'impact sur le résultat est fort et mesurable, il faut avoir des salaires variables très importants, mais des salaires fixes beaucoup plus faibles que dans les métiers où l'impact est beaucoup plus faible. Et ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Plus l'espérance de bonus est élevée, plus l'espérance de salaire fixe est élevée, alors qu'on devrait s'attendre à une corrélation négative entre ces deux formes de salaire. Alors l'interprétation que moi j'ai proposée, c'est une interprétation en termes d'appropriation et de transfert de l'activité. Donc, j'ai développé surtout dans mon ouvrage Working Rich, et je développe l'idée que les salariés transportent avec eux l'activité financière, une activité financière à laquelle ils n'ont que partiellement contribué. C'est une activité financière qui s'est développée avec les fonds propres de la banque, avec le travail du back-office, etc. Alors là, je donne un petit exemple. J'ai essayé, à partir d'une petite enquête sur les salariés de la finance, voir quel est l'enjeu d'un recrutement. Et bien, dans un certain nombre de cas, l'enjeu d'un recrutement, quand on passe de banque en banque, c'est d'apporter de nouvelles techniques, d'apporter de nouveaux clients, d'apporter de nouvelles stratégies, développer une nouvelle activité, des choses qui en général, bon, parfois peuvent être liées au talent initial avant l'insertion en finance, mais pour beaucoup, ce sont des choses qui ont été acquises sur le tas par les salariés. Et ce qu'on constate, c'est que plus on va vers les métiers front, plus la dimension de transport et d'apport d'activité va être importante. Donc cette activité, elle est en grande partie appropriée par le salarié au cours de son parcours en finance. Et pourquoi il peut s'approprier ? Parce qu'il y a deux choses qui sont éminemment appropriables et beaucoup plus appropriables en finance que dans les autres secteurs. C'est d'une part le capital humain, les savoirs, les savoir-faire, la technologie, les logiciels qui sont mal protégés par les brevets, par le droit de la propriété. Et un deuxième élément qui est souvent méconnu, c'est le capital social, c'est la capacité à s'approprier les clients et les équipes. Et pourquoi au sein de la banque ce phénomène va être d'autant plus important qu'on va au front, je pense qu'il y a deux choses qui favorisent ces éléments. C'est au front, il y a une spécialisation extrêmement forte, et donc par spécialisation les salariés sont en contact très intime avec l'activité et peuvent mieux se l'approprier. Et d'autre part, l'activité est très standardisée, et donc quand on va d'une banque à une autre, c'est très facile dans les métiers fonds de répliquer son activité, tandis que quand on est au support, quand on gère des logiciels de back-office qui font le règlement livraison, ce sont des logiciels maison qui vont être difficiles à répliquer d'une banque à une autre parce que les systèmes sont très complexes. Donc du coup, la conséquence de cette approche, c'est que le bonus va être la rémunération de ce que le salarié transporte avec lui et qu'il a que partiellement financé. Donc il y a une dimension d'échange inégale. Et elle est particulièrement forte dans un certain nombre de cas, notamment le cas des chefs de desk et des chefs de salle, qui peuvent, dans certains cas, transporter avec eux non seulement tout ce qu'ils ont accumulé personnellement, mais l'ensemble de l'activité en transportant avec eux l'équipe. Dans mon livre, je développe un cas de hold-up où un chef de salle et son adjoint ont menacé très explicitement leur banque de partir avec l'ensemble de leurs équipes dans une banque rivale si jamais la banque ne leur donnait pas le contrat auquel ils estimaient avoir droit en matière de répartition des bonus. Et c'est à la suite de cette renégociation très, très fructueuse qu'ils ont obtenu 10 millions d'euros pour le premier et 7 millions d'euros pour le second en 2019.
2001.
C'est pas du hold-up, c'est du racket, là.
Non, c'est du hold-up. On menace de malheur si jamais les conditions ne sont pas réunies. Donc, il y a ce qui est assez intéressant dans ces... Dans ces mécanismes, je pense notamment, c'est la capacité à mobiliser le capital social, les équipes alors c'est pas spécifique à la finance, c'est des choses qu'on trouve ailleurs aussi, notamment dans tout le monde du service aux entreprises, mais qui est particulièrement vif en finance. Et lors d'une petite enquête, j'ai remarqué que il y avait 15% alors que c'est un niveau très junior, 15% des gens qui avaient déjà connu une mobilité, qui étaient partis d'une banque à une autre avec des collègues. Donc c'est pas négligeable. Et aussi, il y en a 15% aussi qui, une fois en place, ont recruté des anciens collègues. Et ces phénomènes sont d'autant plus importants qu'on va vers le front office. Hein. Donc on a une nouvelle forme de mobilité du travail qui permet de renverser les rapports de force avec le capital, puisque certains salariés peuvent s'approprier l'activité et la déplacer de banque en banque en se déplaçant en équipe. Donc voilà, bon, je termine par ce tableau illisible où, effectivement, on montre que les gens qui s'approprient, qui transportent avec eux l'activité et qui ont des relations de collaboration très importantes, ont des salaires beaucoup plus importants. Donc, à une petite échelle, c'était une toute petite enquête, on avait 500 réponses de niveau plutôt junior, mais on a pu constater le phénomène. Voilà.
On a dit que la nouvelle réglementation permettait de fidéliser, finalement, les traders aux banques.
Sont plus chers à bouger, puisque ouais. Dans la mesure où ils ont une partie différée qui leur est payée, ouais. Ben, si une banque veut les recruter, il va négocier avec la banque qui les recrute qu'on échange des titres de la société qui l'emploie contre des titres de la société qui veut l'employer. Donc ça commence à faire des montants très importants, donc ils sont effectivement moins mobiles. Ils ne sont pas plus fidèles, ils sont moins mobiles.
Cela dit, dans la même enquête, j'ai demandé s'ils étaient soumis à des clauses susceptibles de les retenir, clauses de non-concurrence ou bonus différé ou autre type de clauses. Et dans un certain nombre de cas, ils l'étaient plus au front office qu'ailleurs, ce qui est une certaine logique. Mais aussi, dans 60% des cas, ils essayaient de la renégocier. Et dans 40% des cas, ils la renégociaient avec succès, la levée de ces clauses. Donc, ce qui était intéressant, c'est que plus ils transportaient d'activité avec eux, plus ils avaient du succès dans leur renégociation. Pourquoi ? Parce que ce sont des partenaires d'affaires avec qui beaucoup de gens veulent rester en contact, soit qu'ils veulent partir avec eux, soit qu'ils veulent conserver des bonnes relations avec eux pour après faire des affaires. Donc, alors que toute la structure devrait les freiner, en fait, plein de gens ont un intérêt particulier à mettre de l'huile dans le mouvement.
Merci Olivier Gottschaux. On va terminer avec vous, Antoine Dautume. C'est pas forcément la place facile, hein, terminer le tour de table. Vous êtes économiste, je rappelle, professeur à l'Université Paris 1. Vous m'avez dit que vous vouliez conclure sur une vision un peu plus macroéconomique des débats que nous avons eus là pendant cette heure.
En tout cas, je vais prendre un petit peu de recul et j'y suis de toute façon contraint parce que des spécialistes ont dit beaucoup de choses très très riches sur le sujet. Donc, quelques points, puis je vais essayer d'être bref pour que la salle puisse intervenir.
Il nous reste du temps, c'est bien. Je vous en prie.
Premier point, pourquoi faut-il que la puissance publique intervienne dans ce domaine de la rémunération des traders et du contrôle des rémunérations ? Évidemment, plusieurs arguments. Le premier, c'est se soucier de justice en matière de rémunération. Mais les économistes vont avoir tendance à dire très vite que ce n'est pas ça l'essentiel. Si on veut rémunérer les rémunérations des traders, c'est d'abord pour éviter, ça a été dit, mais je le répète, les pratiques à risque. Donc on est plutôt soucieux de ça. La justice des rémunérations, après tout, tout le monde le sait, mais ça n'a pas été évoqué réellement. On peut toujours dire que c'est peut-être le rôle de l'impôt. Après, de l'impôt sur le revenu, de le faire augmenter, peut-être pas seulement de 40 à 41%, mais peut-être un peu plus haut sur la tranche marginale. Donc, néanmoins, Il faut quand même se soucier de justice. Je pense que ce qui se passe est tout à fait délétère et pollue d'autres débats. Ça a pollué le débat sur les retraites. J'ai l'impression que dans les retraites, l'argument de dire « mais il y a de l'argent, il suffit de vouloir le prendre » a joué un rôle extrêmement négatif. Et évidemment, c'est tout ça, c'est parce que qu'est-ce que c'est que 5 milliards aujourd'hui quand on a l'impression que ben, ça se gagne et ça se perd facilement. Donc ça, c'est très gênant. Donc il y a une espèce d'aspect un peu symbolique, mais tout à fait réel pour le fonctionnement de la société française qu'il faut quand même qu'on essaie de limiter finalement des rémunérations aussi visibles, sinon je pense qu'on est assez mal parti. Deuxièmement, pourquoi vouloir après tout taxer les banques par exemple pour leurs profits? Eh bien là aussi, c'est pas seulement, c'est pas d'abord parce que c'est afin d'équilibrer les comptes publics qui vont bien mal, mais c'est pour une autre raison, c'est pour leur faire payer l'assurance dont ils bénéficient de la part de l'État qui les sauve en cas de besoin. Et il faut les sauver, et c'est tout à fait normal. Mais il faut bien se rendre compte que, c'est surtout vrai aux États-Unis, on leur a donné beaucoup d'argent, mais ils ont remboursé après. Mais néanmoins, ils n'ont pas payé tout ce qu'ils devaient, puisqu'ils bénéficient d'une assurance gratuite, et donc il est tout à fait normal d'essayer de la récupérer. Donc je pense qu'il faut introduire un peu de raisonnement économique dans ces questions-là. Alors, deuxièmement, je voulais dire quelques mots de à quoi sert la finance, et notamment à quoi servent les traders. Bon, c'est un arrière-plan sur lequel tout le monde est sans doute pas d'accord. Il y a encore beaucoup cette idée que la finance, qu'est-ce que c'est? La finance, soit c'est un détournement de valeur au profit de quelques-uns, soit c'est quelque chose de complètement virtuel. Et donc, je voulais dire des choses très simples pour dire non, la finance, on ne peut pas s'en passer. C'était implicite, je pense. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. Ça a été presque dit, mais je pense qu'il faut peut-être le rappeler explicitement. Un point qui m'a amusé, c'est quand François Meunier a dit mais les commissions il faudrait mieux les connaître parce que c'est ça finalement le produit de la banque. J'ai reconnu là l'ancien administrateur de l'INSEE qui l'est, parce que évidemment que quand on mesure en comptabilité nationale quelle est la production de la banque, ben, la banque elle produit des services et on les mesure par les commissions, les écarts de taux d'intérêt, et c'est ça la production de la banque, tout à fait à juste titre. Alors, à quoi sert la finance? Bon, elle détourne pas. D'abord, son premier rôle, bien sûr, c'est de collecter des fonds et de les amener des prêteurs ultimes aux emprunteurs ultimes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quelquefois l'impression, on donne quelquefois l'impression qu'on l'oublie, parce que les circuits financiers sont tellement longs et tellement complexes qu'on a l'impression que ça devient totalement du virtuel. Mais non, en réalité, c'est toujours prendre de l'argent plutôt du côté des ménages qui sont les prêteurs et l'amener aux entreprises de l'autre côté. Le capitalisme ne peut pas fonctionner sans le crédit, on l'a dit depuis très longtemps. Deuxièmement, plus spécifiquement, c'est d'échanger des risques, évidemment. C'est de faire payer des risques, de les faire supporter à ceux qui veulent bien les prendre. Et c'est ça la grande activité de la finance. Et évidemment, l'économie moderne ne peut pas vivre dans le risque. Et ça, c'est une idée sur laquelle je reviendrai. On est obligé de vivre avec ça. Et le trading commence comme ça. Le trading commence avec la couverture. Je pense que beaucoup le savent. Mais les premiers produits sophistiqués un peu qui sont apparus sur les marchés financiers, c'est simplement permettre aux gens de se couvrir. Si vous êtes une compagnie aérienne et vous avez besoin de fuel, eh ben, vous aimeriez savoir à l'avance combien vous paierez votre fuel dans un an. Et donc, vous vous couvrez. Si au contraire, vous êtes vendeur de pétrole, eh bien, vous souhaitez aussi pouvoir vendre à terme. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, il y a d'abord donc des opérateurs qui ont des besoins réels, des opérateurs commerciaux, comme on dit dans le jargon, et puis il y a des opérateurs non commerciaux qui se mettent à intervenir sur ces marchés. Les non commerciaux, c'est les spéculateurs qui, eux, interviennent uniquement pour acheter et vendre et faire du profit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, en fait, ça joue un rôle positif. C'est-à-dire que quand des spéculateurs arrivent, Il y a toujours un côté qui perd, évidemment. Si les spéculateurs spéculent à la hausse, eh bien, les acheteurs vont y perdre parce que ça va faire monter les prix. Mais d'un autre côté, les vendeurs y gagnent. Et il y a un argument fondamental de théorie économique qui est que quand plus de gens viennent sur le marché, eh bien, les gens qui sont en place, globalement, y gagnent. C'est tantôt les acheteurs, c'est tantôt les vendeurs, mais enfin, globalement, finalement, même la spéculation, là, joue un rôle positif en permettant au marché financier de se développer et d'avoir plus de possibilités d'échange. Et alors ensuite, ça continue dans cette pente qui nous a amené aux produits dérivés les plus sophistiqués auxquels personne ne comprend, mais c'est un peu une pente inévitable parce que après, bah, les marchés à terme, c'est bien, mais c'est quand même très brutal. Si moi, je veux pouvoir, moi, intermédiaire financier, je veux pouvoir, dans certaines circonstances, me désengager éventuellement, il faut me proposer des produits plus complexes, etc., etc. Et finalement, on arrive à un point extrême qui est sans doute allé trop loin et il faut contrôler la transparence, etc. Mais il y a quelque chose d'inévitable et finalement d'utile là-dedans. Alors, le dernier point que je veux dire, j'ai entendu tout ce qu'il disait, je ne vais pas essayer de synthétiser, mais quand même, si j'essaie d'avoir un regard global, on peut se demander un peu dans quelle société, vers quelle société allons-nous, hein? Alors qu'on l'aime ou pas, on se dit, après tout, il semble bien qu'on va vers une société où il y a plus de risques et plus d'incitations. Hein, une société très concurrentielle, okay, où il y a des risques, bon, donc on sait qu'il y a des primes de risque. Si on accepte, c'est la base des mécanismes de marché du risque, si on accepte de prendre des risques, en moyenne, on gagne plus, mais de temps en temps, on perd. Bon, et ça, c'est une idée qui a des vertus, qui permet effectivement de faire fonctionner relativement bien une société. Alors, évidemment, là, on est quelquefois choqué quand on voit que, bah, après tout, les dirigeants d'entreprise ont eu le discours de dire « mais nous avons un métier risqué, on peut être viré, etc. » Mais bien sûr, on a inventé les parachutes dorés pour éviter ça. Et puis, il y a eu la même chose pour les traders. Quand on dit « il faudrait une part variable qui soit plus variable, qu'on passe à des bonus-malus », eh bien, ils obtiennent très rapidement une augmentation de la partie fixe. Donc, ils n'aiment pas tant que ça le risque. Et de même, les incitations qui sont cet élément très utile d'avoir des incitations. On sait bien que les incitations, c'est fait pour augmenter l'efficacité du fonctionnement d'une entreprise ou de l'économie plus généralement. On sait bien que ça ne va pas dans le sens de la justice. Hein. Les incitations, c'est fait pour donner beaucoup aux gens qui sont très performants et moins. Et donc, on a l'idée qu'il faut agir après, peut-être par ailleurs, évidemment, plutôt au niveau de la redistribution secondaire. Alors, est-ce que, il y a un peu de ça dans ce qui se passe, dans ces très hautes rémunérations, c'est l'effet Pavarotti, il y a effectivement de l'efficacité. Pour le dire simplement, ça s'applique plus aux chefs d'entreprise qu'aux traders, mais après tout, on pourrait dire, si vraiment mon chef d'entreprise est quelqu'un de formidable, peut-être que chacun des 100 000 employés de l'entreprise est prêt à céder une toute petite somme pour lui donner un bonus gigantesque parce que finalement, la société va mieux marcher. Ça, c'est des idées qu'en France, on n'a pas beaucoup. Hein, je pense qu'on les a évidemment beaucoup plus aux États-Unis. En France, on a beaucoup l'idée encore que les grandes rémunérations des patrons, ils se chargent sur la bête, ils n'apportent pas beaucoup à l'entreprise. Bon, et je pense que c'est faux. Alors, c'est là que ça a été beaucoup dit, mais l'argumentation Pavarotti, elle a été très détaillée. Je redis juste un mot qui n'a pas été souligné, qui restait implicite, c'est que ça a augmenté beaucoup à cause de la taille, hein, c'est un peu l'argument que je viens de dire, hein, si vous faites bien gagner, si vous maintenez l'emploi, vous allez dire bien gagner leur vie, c'est pas exactement ça, à 100 000 employés, effectivement vous allez être assez naturellement bien rémunéré. Et l'autre aspect, je vais quand même dire le mot, c'est ce qu'on appelle en statistique la courbe de Pareto. La courbe de Pareto, c'est le premier gagne deux fois plus que le second, le deuxième gagne deux fois plus que le troisième, etc. Les rémunérations sont extrêmement étalées, même si les écarts, c'est ce qui se passe dans ces marchés de traders, ça a été dit, sont extrêmement faibles. Alors, cette société, ce qui nous gêne, c'est que cette société sur le risque et basée sur le risque et les incitations, ben, elle arrive sous une forme très déformée, évidemment. Et en fait, les économistes comprennent aussi pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de problèmes d'information, et donc ben, cette société, il faut d'abord la rendre plus transparente et plus correcte, et puis après, il faut la corriger, évidemment, beaucoup, sans doute, au niveau de l'imposition du revenu. Voilà.
Merci Antoine Dautume. C'est à vous, donc il nous reste un petit quart d'heure pour vos questions. Je pense qu'il y a des micros qui circulent. Monsieur, en blanc, levez la main le premier. Voilà. J'en prie, présentez-vous, on vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Pascaud, je suis étudiant à l'école normale. J'avais quelques questions. Déjà, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous avaient plutôt essayé de justifier d'un point de vue théorique, de dire... Comment est-ce qu'on explique ? Mais il me semble que dans le terme justifié, il y a aussi l'idée de, finalement, même si c'est peut-être un peu trop moraliste comme discours, est-ce que c'est normal ou pas normal ? La dernière intervention sous-entendait un peu que finalement, ce n'est pas si anormal, parce que, alors peut-être pas sur les traders, mais par exemple, l'idée que les grands patrons méritent leur gros salaire parce qu'ils apportent quelque chose de particulier. Sur cette idée, j'ai envie de dire qu'on pourrait très bien imaginer une société dans laquelle les grands patrons ne gagnent pas 100 fois plus que les ouvriers. Pourquoi ? Parce que, en majorité, les grands patrons, ce ne sont pas uniquement des gens qui ont tout réussi par eux-mêmes, ce sont des gens qui ont, par leur éducation, par l'aide de leurs parents, de leur famille, de leur entourage, ont réussi à faire des études, et donc ont réussi petit à petit à gagner, à acquérir cette possibilité d'avoir des responsabilités. Mais ce n'est pas juste inné, je dirais. Ils l'ont acquis, ils ont eu certaines chances dans la vie, donc ok, ils méritent d'être patrons parce qu'ils ont la capacité de gérer toutes ces responsabilités, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils méritent de gagner 100 fois plus.
Alors est-ce que c'est normal ces salaires ? Est-ce qu'ils sont normaux ces salaires ? Qui veut répondre ? Diane Segalen.
Non, quand un salarié gagne plusieurs dizaines de millions, c'est hors norme. Mais d'ailleurs, c'est exceptionnel. Ça concerne. Moi, je ne me prononce pas sur le fait que ça soit bien ou que ça soit pas bien. C'est un caractère exceptionnel. Alors, sur la rémunération des patrons, les patrons en France sont moins bien payés que leurs patrons, que leur homologue. À l'étranger, la rémunération n'est pas le seul moteur. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la rémunération n'était pas liée directement aux facteurs de performance. Néanmoins, on se place dans un environnement concurrentiel où les gens, ils se comparent aussi à leurs homologues. Donc, la rémunération. Moi, peut-on justifier le salaire des traders à partir du moment où les gens ne se mettent pas en risque? Un salaire de ce niveau-là est clairement injustifiable. Alors, il s'explique, mais je pense que le régulateur met en place un certain nombre de garde-fous, et notamment la possibilité, j'espère que ça sera possible en droit social, de faire en sorte que quelqu'un qui a été un très bon performeur une année, donc qui, quelque part, mérite une partie de la création de valeur, qui n'est pas bon, qui fait perdre de l'argent l'année d'après avec la petite cagnotte qu'on lui a donnée, qu'on lui retire ce qu'il a gagné l'année d'avant, je trouve ça tout à fait normal. Donc, le régulateur œuvre pour moraliser ces phénomènes de distorsion qui sont à la fois exceptionnels et totalement choquantes. Donc, moi, je pars du principe que quand on n'est pas en risque, il n'y a pas de raison d'avoir ces niveaux de rémunération exceptionnels. Mais où est-ce qu'on place la norme ? On était dans le taxi avec un autre économiste qui au-delà de... Est-ce que c'est 150 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros ? Après, chacun met le niveau où il veut. Je peux vous dire que le trader qui est en salle des marchés à 5 heures du matin tous les jours et qui a son niveau de stress tous les jours à assumer et qui le soir sait combien il a gagné ou pas gagné et sait s'il va être payé... un économiste, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, à la fin du mois, il est payé. Donc le trader, s'il n'est pas bon, il a zéro à la fin de l'année, un bon coup de pied aux fesses, et il rentre chez lui, il n'a plus de boulot. Donc, encore une fois, les rémunérations, l'origine d'une rémunération élevée est liée à la nature même du poste. Et il n'y a pas de... Il faut aussi voir que c'est des gens qui n'ont aucune garantie. Mais effectivement, moi, je considère que il y a eu des excès qui sont totalement injustifiés.
Antoine Mérieux,
oui, vous exprimez. Je voudrais rebondir sur la rémunération des mandataires sociaux pour dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Antoine Dautume. Je trouve que Quand on regarde l'évolution des 15 dernières années, notamment ce qui s'est passé aux États-Unis, avec des rémunérations complètement indécentes, avec des mécanismes d'intéressement sur la base de stock options qui accentuaient la tendance au short-termisme, qui n'était pas du tout représentatif de l'effort réel, la contribution réelle de ces dirigeants. Donc je crois que le capitalisme financier américain nous a joué un très mauvais tour, en nous obligeant, bon gré mal gré, non pas à nous aligner, parce que ça aurait été impossible, mais à faire un petit peu la même chose. Et là, je trouve que c'est une des grandes critiques qu'on peut faire à l'évolution de ces dernières années, que ces niveaux de rémunération qui remettent en cause le tissu social, notamment dans l'entreprise.
J'ai juste une deuxième question sur...
Pardon, Antoine Dautumbeau, répondez.
Non, je veux dire un mot. J'ai l'impression, là, je vais parler très vite, parce que j'étais le dernier, et de ne pas avoir été totalement compris. Je veux dire, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut se poser aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas des explications contre lesquelles il est difficile d'aller, qui expliquent cet éventail? Et ça, je pense qu'il y a des explications, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas si facile d'aller contre à ce niveau-là. Donc je suis tout à fait convaincu qu'il faut, j'ai quand même dit beaucoup, qu'il faut aller contre après par l'impôt sur le revenu, par l'impôt sur le capital, peut-être qu'il faut taxer les héritages, et après, pour répondre à monsieur, ce qu'il sous-entendait, il a bien raison, le problème c'est qu'il y a des héritages sociaux qui ne sont pas taxables. Donc dans ce cas-là, il faut agir ailleurs, dans l'éducation, etc., etc. Donc je n'ai parlé que d'une toute petite partie de la question.
On passe à une autre question.
Je voulais juste...
Il faut que tout le monde ait la parole. S'il vous plaît, on reviendra, si, promis, si on a le temps. Monsieur, devant.
Ah, d'accord.
Vladimir Andreev, professeur émérite à Paris 1. Il y a quelque chose que je trouve de plus choquant que la rémunération des traders, c'est l'absence de perte de rémunération systématique des traders qui font perdre de l'argent à leurs établissements. Ce devrait être quelque chose de systématique. Et ça aurait deux effets positifs. Le premier serait de faire baisser la moyenne des rémunérations des traders, puisque les opérations négatives feraient baisser leur niveau de rémunération. Et deuxièmement, ça ferait baisser la prise de risque excessive qui est à l'origine des problèmes du système financier en général.
Alors là, évidemment, on se heurte peut-être au droit du travail. On a évoqué la question tout à l'heure. Olivier Gottschaux.
Ce qu'il faut voir, c'est que les banques sont des entités extrêmement hétérogènes. Tout le jeu des opérateurs financiers, c'est de plaider profit responsable et perte non responsable. Et surtout de redéfinir en permanence le périmètre des performances dont on peut les rendre responsables. Et notamment au moment où il y a eu la crise des subprimes dans une banque comme Lehman Brothers, vous avez des situations extrêmement hétérogènes où sur le marché des dérivés actions, ils continuent à faire des profits relativement conséquents, et dans tout ce qui était dérivé de crédit lié au CDO, au CDS, ils accumulaient des pertes abyssales. Et donc les équipes de trading dérivés actions leur disent, nous on n'est pas responsable des pertes des autres, et on veut continuer à être payé en fonction de notre marché. Et donc l'approche par l'entreprise en disant c'est un tout uniforme, il faut que les salariés soient solidaires du tout, elle a énormément de mal à s'imposer quoi, dans l'entreprise.
François Meunier, l'absence de malus, en gros.
Oui,
il va assurer, il va faire des assurances pour traders.
Oui, sur le phénomène pile je gagne, face tu perds. Je veux juste dire que l'industrie évolue forcément là-dessus, puisque on voit bien que dans ce cas-là, ça n'est pas un salarié. Un salarié est un peu comme un créancier. Il a un niveau de rémunération fixe. Il peut avoir l'upside, mais il n'a pas le downside. Donc, probablement que ces métiers-là vont évoluer. Je trouve que le phénomène croissant des hedge funds, y compris au sein de la banque, puisqu'il y a de plus en plus d'externalisation des métiers de trading vers des toutes petites structures, finalement, qui sont des structures capitalistes, avec un système d'entrepreneurs où ils peuvent perdre, c'est-à-dire qu'ils sont exposés par les deux bouts. Et on le voit bien, beaucoup de professions sont comme ça. Lorsque le produit est complexe, lorsqu'il y a des phénomènes de rente qui se mettent en place, eh bien, au fond, le contrat salarial n'est pas forcément le meilleur des contrats. Je veux revenir sur la question éthique soulevée précédemment. Je crois qu'il faut, on peut en discuter des heures, il faut un programme très minimaliste. Si déjà des règles de marché normales permettent d'éviter de telles rémunérations. Et au fond, si on se donne cette norme éthique par laquelle ce qui n'est pas le jeu normal d'un marché est quelque chose qui n'est pas justifié, vous voyez que c'est une définition à la fois compatible avec le libéralisme et est extrêmement modeste, eh bien, on peut néanmoins faire des choses. Beaucoup de chefs de salle ou de patrons de banque disent « je paye parce que c'est le marché qui veut ça ». Et si je ne paye pas, ça va aller chez le concurrent. Je dis non, on voit bien, je crois que les travaux de Gottschall le montrent bien, il y a des phénomènes qui ne ressortent pas d'un mécanisme de marché concurrentiel. Et simplement imposer que la concurrence et la transparence se mettent en place pour ce marché du travail extrêmement particulier réglerait déjà énormément de choses. Donc c'est un programme modeste, mais appliquons-le. Le régulateur est en porte-à-faux, je suis un peu long, le régulateur est en porte-à-faux là-dessus, parce que le régulateur, notamment suite à la crise financière, il intervient plutôt d'un point de vue prudentiel. Il veut que ça ne se reproduise pas et donc qu'il n'y ait pas de faillite bancaire, parce que c'est cataclysmique. Et donc il va faire tout pour que ça ne se reproduise pas. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une régulation de plus en plus lourde et donc il érige des barrières à l'entrée au secteur bancaire qui certes sont favorables du point de vue de la gestion macroéconomique du risque, mais sont défavorables au regard des phénomènes qu'on a vus, parce qu'au fond, ça limite la concurrence des banques. Et c'est vrai qu'une des suites qu'on observe, disons, une des séquelles de la crise financière, c'est une concentration énorme du secteur financier, y compris notamment en France. Et donc là, il y a un conflit de régulation entre le concurrentiel d'un côté, le prudentiel de l'autre, et le régulateur doit faire tout à fait attention de préserver l'un et l'autre.
Il y a aussi un phénomène qui est que le trader, c'est comme le footballeur, ça vieillit mal. Donc il n'y a pas de vieux traders. Les gens rentrent effectivement en sortant de l'école. Il y a une filière, on ne devient pas trader à 30 ans, on ne se réveille pas un matin en devenant trader. Mais néanmoins, il y a peu de traders qui ont plus de 40 ans, à la fois à cause du niveau de stress, soit parce qu'ils ont très bien gagné leur vie, donc ils peuvent faire autre chose, soit encore parce qu'ils ont évolué dans la banque, et on parlait des métiers après de contrôle et des métiers des risques. Aujourd'hui, il y a quand même eu une très forte amélioration sur tous les métiers de risque et de contrôle des risques, qui en général sont des anciens opérateurs de marché qui ont basculé, qui ont fait que les métiers de risque finalement font presque partie de l'offre commerciale. On va expliquer aux clients qu'on a des gens qui sont très bons en risque et donc on ne va pas vous fourguer des produits auxquels vous ne comprenez rien et qui, quand vous allez le déboucler dans 10 ans, vont vous coûter de l'argent.
Pardon, je vous coupe, mais il nous reste 3 minutes. Monsieur, une question.
Oui, alors, excusez-moi, moi, je ne suis pas économiste, donc ça va peut-être un petit peu naïf. Et puis, vos propos étaient assez analytiques. Moi, c'est plus du ressenti, même si ma question tarde un peu, puisqu'on a enfin entendu le mot rémunération indécente. Parce que sur la question de la rémunération des traders, moi, je ne pleure pas les traders qui vivent dans le stress du matin au soir, qui ne savent pas combien ils vont gagner. Il y a beaucoup de gens en France qui vivent dans le stress avec des métiers beaucoup plus simples et avec des rémunérations beaucoup plus faibles. En ce qui concerne la dite compétence de ces gens-là, on a vu aussi qu'elle a ses limites. Bien sûr, ils sont très compétents de par leur formation, mais on a vu qu'ils ont une part de responsabilité. Mais c'est qu'un rouage, mais ils ont fait partie quand même des gens qui nous ont amenés dans une crise financière. Eux continuent leur métier, mais les gens dans le bâtiment en Espagne, aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Donc, sur les responsabilités de la crise et sur le remboursement de ces trucs-là, c'est pas réglé. Non, mais... Voilà. Il y a quelque chose qui me choque un petit peu, c'est quand on parle de création de valeur. La création de valeur, quand même, le trading en général, hein, je ne parle pas des traders spécifiquement, mais toute cette finance-là, c'est d'abord à partir de notre argent qui travaille. Alors, il y a, à mon avis...
C'est pas pour spéculer, forcément.
Non, pas forcément pour spéculer. D'ailleurs, monsieur a dit tout à l'heure, pour défendre la finance, la spéculation joue un rôle positif. Peut-être, mais il faut quand même limiter. Il y a des gens qui spéculent, même sans le savoir, avec leur SICAV, des gens qui achètent des maisons, qui se retrouvent à la rue parce qu'on a spéculé sur leur dos. Il faut prendre un peu de précaution, je trouve, quand on dit ça. Et ma question, c'est juste la suivante. Voilà, je vais arriver pour que vous puissiez répondre. C'est peut-être très naïf, alors vous répondrez aussi naïvement. C'est les traders, quand ils spéculent sur des matières premières ou des choses comme ça, ça a des conséquences énormes pour une grande partie de la population mondiale. Par exemple, l'augmentation du prix du blé, les conséquences que ça peut avoir. Et est-ce qu'il faudrait pas, je parle pas du coup sur la réglementation, c'est un problème moral, je me situe ailleurs, mais est-ce qu'il faudrait pas tenir en compte de cette chose-là qui me semble peut-être nuisible sur le plan social au niveau mondial pour parler de leur rémunération? Est-ce que c'est pas un élément, je ne sais pas comment, mais dont il faudrait réellement au moins se dire qu'il faut en tenir compte? Voilà, c'est ma question.
Qui veut répondre? Tenter de répondre. la salle peut-être. Bon. Olivier Gotcheau.
Moi, à rebrousse-poil de ce que vous dites, c'est, si j'ai étudié les rémunérations dans la finance, c'est pas pour pointer du doigt la finance, dire que ce sont des bad boys, c'est plutôt pour mettre en évidence des mécanismes sur l'échange salarial dans le monde du travail qui concernent tous les secteurs. Et pour, enfin, dans ma perspective, je pense pas que tout le monde sera d'accord avec ça, mais que dire que l'échange au travail est quelque chose de pas normé, de pas standard. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et au fond, la finance, pour moi, n'est que l'observatoire des transformations du capitalisme contemporain. Et donc, loin de moi l'idée de pointer mon doigt sur ce secteur. C'est juste un endroit où, du fait de la rente conjointe des actionnaires et des salariés, il y a un gros gâteau à distribuer. Mais quand il y a un petit gâteau à distribuer, les mécanismes de partage sont un peu les mêmes.
Si je peux juste ajouter, je pense que les entreprises maintenant au sens large ont des bilans sociaux sur leur impact. Alors l'impact de leur activité en général, que ce soit l'impact écologique ou l'impact social. Donc je pense qu'il y a une conscience qui aujourd'hui est plus forte. Alors elle est faite au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'elle redescend au niveau individuel? Peut-être pas encore, mais en tout cas je pense que les gens, il y a cette recherche un peu de moralité quand même qui est plus forte aujourd'hui dans l'entreprise que la simple recherche du profit.
Une dernière question, madame.
Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas trop de problèmes à pointer du doigt le capitalisme actionnarial. Et pour revenir à la question qu'a posée le jeune homme en tout premier, à laquelle finalement, c'est vrai, on n'a pas répondu aujourd'hui, c'est peut-on justifier le salaire des traders et au lieu de se placer sur une explication du salaire des traders, l'expliquer en termes d'utilité sociale de leur travail et d'utilité économique du capitalisme actionnarial. Parce qu'on peut quand même se rappeler qu'à la base, le capitalisme actionnarial, il sert à permettre l'investissement économique. Or, aujourd'hui, les entreprises, elles désépargnent pour payer leurs actionnaires et elles empruntent à la banque pour financer leurs investissements. Donc, je trouve que c'est des choses qu'on aurait peut-être dû évoquer pour répondre à la question, est-ce qu'on peut justifier le salaire des traders?
En reste, j'ai l'impression, sur hiatus entre l'opinion publique qui réclame plus de moralisation...
Je suis professeur de sciences économiques et sociales. Ouais. Je ne suis pas que une... Je suis pas spécialiste, mais je sais de quoi je parle.
Je vous invite à lire ce rapport qui sort lundi prochain, qui répond en partie à cette question. Moi, je pense effectivement, quand on voit les statistiques d'Olivier Gotcheau sur des entreprises qui... aux États-Unis, ont représenté au niveau de leurs résultats 40% des résultats de l'ensemble de l'économie, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements quand on voit l'évolution cyclique de ces résultats. Donc, il est clair que la finance de marché a explosé en quelque sorte au cours des dernières années et que le lien que l'on peut faire entre les résultats qu'elle a pu accumuler et l'utilité sociale réelle de cette activité. Qui est certaine, mais qui n'est sans doute pas en proportion de ses résultats. Donc là, il y a une vraie question sur l'organisation des marchés, sur leur contrôle. Et donc, les rémunérations, comme je l'indiquais dans ma présentation, sont quand même, pour une part, les résultantes de cette surrentabilité, au moins conjoncturelle, de ces activités.
François Meunier, pour terminer. On aura...
C'est une question immense. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ce que vous dites. Je pense, parce que sinon, on perd les repères. Il est clair que les marchés ou l'allocation des ressources par les marchés, ça fonctionne dans certains cas, ça ne fonctionne pas dans d'autres cas. Bon. Et une collectivité économique ou humaine n'a pas que l'instrument des marchés, il y a les entreprises. Je vous signale qu'au sein des entreprises, ce n'est pas des relations de marché, c'est des relations hiérarchiques, de commandes. Il y a le rôle de l'État, il y a le rôle d'autres institutions sociales. À l'évidence, et je crois qu'on va dans le même sens, les marchés doivent être limités. Quand un marché dérape, et très clairement le marché du travail pour ce type de spécialité à très fort contenu en capital humain, le marché du travail n'est pas capable de donner un salaire concurrentiel. Il y a des phénomènes de captation de rente, de spoliation, de prédation qui se mettent en place. Et donc il faut dire l'instrument de marché n'est pas efficace, comment on peut le corriger? Et donc là du coup il y a un rôle, disons, normatif et pas simplement explicatif. Bien sûr, mais je ne crois pas, et je crois même que ce serait dangereux, d'intervenir sur ces domaines-là uniquement à partir d'une posture morale. Il faut réellement que l'analyste social, l'économiste, je ne le suis pas, mais s'attelle à la dure tâche d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, dans un mécanisme normal, ce type de phénomène peut se produire. Si vous n'avez pas cette explication de l'ordre du rationnel, je ne vois pas que vous puissiez bâtir une prescription qui puisse s'imposer à tous. La tâche est plus difficile, mais je ne vois pas que vous puissiez éviter ce chemin.
Merci, merci à tous, merci pour cette conclusion. Bonne soirée.